sa perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Autrement dit, il y a des choses que Dieu nous a déjà clairement révélées. Et nous avons une responsabilité de les mettre en pratique. Il y a des choses qui, peut-être à l'époque de l'Ancien Testament, ou même encore maintenant, ne sont pas encore clairement révélées. Ne nous soucions pas de ces choses. Soucions-nous des choses qui sont clairement révélées. Et l'idée que va développer Moïse par le Saint-Esprit, c'est qu'en fait la désobéissance n'est jamais une matière d'ignorance, c'est toujours une affaire de choix. On va voir que Moïse va parler du futur d'Israël, il va parler de malédiction, de bénédiction, il va parler de leur restauration. Et c'est vrai qu'en fait, on estime qu'Israël, le peuple d'Israël est entré en terre promise en l'an 1400 avant la naissance de Christ. Vous vous souvenez peut-être qu'après le règne de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé en deux royaumes. Il y avait le royaume du Nord, qu'on appelait Israël, qui a été conquis en 722 avant Jésus-Christ. Par l'Assyrie. Et puis le royaume du Sud, ou Juda, dont la capitale était Jérusalem, qui a été conquise par Babylone en l'an 587 avant Christ. Donc en fait, Israël n'a même pas eu une période de bénédiction de 1000 ans, ça n'a même pas duré 1000 ans. Et pendant cette période, Israël a subi beaucoup d'épreuves et de revers à cause de leur désobéissance à Dieu. Et encore une fois, si nous étudions l'Ancien Testament, c'est pas pour avoir une connaissance livresque, historique des choses du passé, mais c'est parce que, comme l'explique Paul dans 1 Corinthiens 10, toutes ces choses leur sont arrivées pour qu'elles nous servent de leçon. Donc, ouvrons bien nos oreilles et commençons le chapitre 30. Lorsque toutes ces paroles se réaliseront pour toi, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura banni, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, selon tout ce que j'ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura disséminé. Quand tu serais banni à l'extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est de là qu'il te prendra. L'Éternel ton Dieu te fera revenir dans le pays que possédaient tes pères, et tu en prendras possession. Il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. Ça, c'est une prophétie qui s'adresse à Israël. Une chose importante lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, les prophéties, c'est de comprendre que Israël et l'Église ne sont pas une seule et même chose. C'est vrai que le peuple de Dieu, c'est non seulement Israël, mais c'est aussi l'Église. Mais si on pense que l'Église a remplacé Israël dans le cœur de Dieu, je crois qu'on se trompe et on a beaucoup de mal avec, à comprendre les prophéties, à comprendre l'Apocalypse. Et en fait, il est question dans la Bible d'une période de grande tribulation par laquelle passera le peuple d'Israël. Et bien que certains ne soient pas d'accord, je pense que l'Église sera enlevée avant la période de la grande tribulation. Et il y a notamment lorsque Matthieu raconte les prophéties de Jésus concernant la fin des temps, Matthieu 24. Matthieu 24, 21. Jésus explique, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Et puis au verset 31, on va lire verset 30 et 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et lorsqu'il est question de rassembler les élus, si on pense que les élus c'est aussi l'Église et l'Israël, alors tout se mélange. Ma conviction, c'est que les élus ici désignent le peuple d'Israël. Et qu'il est question ici de la promesse qu'on trouve dans Deutéronome de rassembler le peuple d'Israël un jour dans son territoire. Lorsqu'il est question de rassembler le peuple d'Israël dans le Deutéronome 30, je crois qu'il est question de ce retour final dans leur territoire. En l'an 536 avant Christ, il y avait déjà eu un retour d'exil. Mais ce n'était pas un retour complet. En 1948, il y a le retour des Juifs en terre promise. Mais je ne crois pas non plus que ça corresponde à l'accomplissement de la promesse dont il est question ici. Parce que le verset 2, visiblement, n'est pas encore réalisé. Il est question de... Il est question de revenir à l'Éternel, ton Dieu, si on obéit à sa voix de tout son cœur, de toute son âme. Et je n'ai jamais été encore en Israël, mais on sait que le peuple d'Israël dans son ensemble est encore loin de Dieu. Mais un jour, la nation juive verra leur Messie transpercé, et là, ils se repentiront, ils seront lavés de leurs péchés. Dans Zacharie 12:9, en ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier mai. Et verset 1 du du chapitre 13 dit « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem à cause du péché et de la souillure. » Un autre passage qui parle de la tribulation comme un temps d'angoisse pour Jacob. Jacob ou Israël, c'est Jérémie 37. Malheur, car ce jour est grand, aucun autre n'est comme lui. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sortira sauvé. Donc ces élus, c'est la nation d'Israël, Ésaïe 11, 12, un autre verset le confirme. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les bannis d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Donc, le prophète Ésaïe continue aussi en décrivant cette période de prospérité qui, pour moi, arrivera lorsque Israël entrera dans le millénium. Je crois que c'est important de penser que cette prophétie s'adresse à Israël. On verra, on fera des remarques concernant Paul dans Romains 9, 10, 11. Et Paul différencie clairement entre l'Église et le peuple d'Israël. Encore une fois, Israël, c'est pas la nation, l'État d'Israël courant à présent. C'est l'Israël de ceux qui loueront Dieu en Israël. Verset 6 de Deutéronome dit que l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Circoncire son cœur, qu'est-ce que ça veut dire ? La circoncision, bien sûr, ça correspond à cette opération chirurgicale où on enlève encore le prépuce des enfants mâles. Comment ça se dit en anglais? Foreskin. On a un pédiatre qui... Et en fait, c'est une opération qui a un symbole très fort, qui était un signe d'identification du peuple d'Israël, parce que c'était en quelque sorte l'élimination de la chair. C'était un symbole que notre vieille nature, notre chair, était enlevé, éliminé. Alors il ne faudrait pas faire l'allusion que la chair, c'est simplement les pulsions, les tendances sexuelles. La chair, c'est toute notre vieille nature dans la Bible. C'est mon égoïsme. C'est ma colère. C'est mon avarice, c'est mettre moi en premier, avant Dieu, avant les autres. Et ça, si vous ne l'avez pas encore réalisé, c'est une tendance qu'il y a naturellement dans notre cœur. Et donc Dieu peut peut agir aussi dans notre cœur, il peut le circoncire. C'est-à-dire enlever cette tendance de notre vieille nature. Alors, le problème, c'est que les Juifs prenaient le rituel au-dessus de la symbolique de ce rituel. Un peu comme aujourd'hui avec le baptême. Le baptême, pour certains, c'est l'assurance vie éternelle. J'ai été baptisé, j'ai un certificat de baptême, donc ça va, je suis tranquille pour l'éternité. Encore une fois, le baptême, c'est un symbole d'une réalité qui doit être intérieure. Je peux me faire baptiser une fois, deux fois, me faire baptiser dans le Jourdain. Mais si ça ne correspond pas à un profond désir dans mon cœur de suivre Christ, alors le baptême ne sert de rien. Certains pensent qu'il y a, il y a un passage qui parle d'être sauvé et baptisé. Et ils disent qu'en fait le baptême est nécessaire au salut. Et c'est vrai qu'à l'époque du Nouveau Testament, dès que quelqu'un mettait sa foi en Christ, on le baptisait. On ne faisait pas de cours de catéchèse. Mais les deux choses arrivaient en même temps, pratiquement. Donc, on pouvait dire que quelqu'un qui était baptisé était sauvé. Un peu à la même façon pour le mariage, aujourd'hui. Quand on se marie, maintenant, il y a un symbole. L'alliance. Et des fois, au lieu de dire se marier, on dit quand est-ce que tu vas te décider à me passer la bague au doigt? Donc, pour moi, le baptême, c'est pas ce qui nous sauve. C'est la foi en Christ. On y reviendra dans ce texte. Et donc, circoncire le cœur, c'est enlever de notre cœur les désirs, les choses de la chair. Pour qu'on soit capable de suivre Christ, de marcher selon l'Esprit. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, Dieu veut mettre sa loi dans nos cœurs. Dans Jérémie 31-33, voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Verset qui est cité dans Hébreux. Je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai aussi dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ça c'est Hébreux 8, 10. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je mettrai les lois dans leur intelligence ou dans leur cœur. Le cœur, dans le contexte hébraïque, c'était toute la personnalité, c'est pas seulement l'organe qui était. Qui est responsable de la circulation sanguine, c'est toute la personnalité au plus profond d'elle-même. Et donc l'idée, c'est d'avoir une obéissance qui vient de l'intérieur. Une obéissance externe, ça ne suffit pas. Quelque temps, en France, il y avait un bon exemple de ça. Le code de la route disait que les motocyclistes ou les personnes conduisant des scooters devaient avoir porter un casque. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de jeunes qui portaient un casque au bras. Ils avaient une obéissance extérieure. On ne pouvait pas leur mettre un PV parce qu'ils portaient un casque. Bien sûr, ça c'était la lettre de la loi et non pas l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est qu'ils soient protégés, qu'ils mettent le casque sur leur tête. Et Dieu, de la même façon, veut que ces lois elles soient dans nos cœurs. Et que quand on obéit, c'est pas qu'on obéisse de façon extérieure. Ça peut tromper d'autres hommes, mais sachez que ça ne trompe jamais Dieu. Dieu voit notre cœur et il veut que ce soit du cœur que parte notre vie chrétienne. Dans ce passage, il est intéressant de noter aussi que l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, c'est Dieu qui va faire cette œuvre. On va demander au pédiatre, mais on voit rarement un enfant se circoncire lui-même. C'est le docteur qui circoncise, c'est le rabbin. Et de la même façon, non seulement il circoncire nos cœurs, mais il va circoncire le cœur de leur descendance. Je dis nous et on, il s'adresse encore une fois à Israël. Et il y a une application, bien sûr, c'est que Dieu s'occupe aussi de nos enfants. Comme je disais, c'était intéressant de voir de se retrouver à une réunion de famille. C'était une réunion incomplète. Nancy vient d'une famille où il y avait 12 enfants. J'ai arrêté de compter, mais je crois qu'il y a 41 petits-enfants. Les beaux-fils et les belles-filles. Mais ce qui me frappait davantage, c'était de voir que certains que j'avais pas vus depuis très longtemps, c'est que les enfants étaient devenus des adultes, qu'eux-mêmes avaient des enfants. Ou s'ils n'ont pas encore d'enfants, maintenant ce sont des jeunes adultes qui travaillent, qui sont indépendants. Je ne veux pas donner l'impression qu'en 5 ans tout le monde s'est marié et a eu des enfants. Mais la génération de Tonio, c'était eux maintenant qui conduisaient les bateaux pour aller à Lille. C'était plus ma génération qui le faisait. Et encore une fois, nos enfants, on ne les a que pour un temps. Il faut savoir qu'ils ne sont pas chrétiens parce que nous le sommes. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les élever dans les voies du Seigneur. Et faire vraiment de notre mieux pour les amener au Seigneur. Pas facile. Il faut l'aide du Seigneur. Et on n'est jamais sûr on n'a jamais de certitude concernant leur devenir avec Christ. Mais on a des promesses dans la Bible. Proverbe 22:6 nous dit « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et vous qui avez des enfants jeunes ou qui n'en avez pas encore, sachez que ça passe très vite. essayer de prendre du recul mentalement pour réaliser l'importance du temps que vous passez avec eux. Verset 7, l'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ses malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui te haïssent et te persécutent. Et toi tu reviendras, tu obéiras à la voix de l'Éternel, tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail, le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. C'est dans le contexte, c'est Israël, mais je crois que l'Éternel prend plaisir à notre bonheur. C'est important de réaliser ça. Trop souvent, on a cette image d'un Dieu sévère. Mais pourtant, l'enseignement de la Bible est clair. Dieu nous aime. Il veut notre bien-être spirituel, notre bien-être physique. Il prend plaisir à notre bonheur. Est-ce que votre Dieu est un Dieu qui prend plaisir à votre bonheur? Est-ce que c'est un Dieu sévère qui demande seulement des sacrifices? S'il nous demande des sacrifices, c'est parce qu'il veut notre bonheur. Il sait que c'est par ces sacrifices, en mourant à nous-mêmes, que nous allons trouver le vrai bonheur. Qu'on chantait tout à l'heure, mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour dans ta maison que mille ailleurs. Encore une fois, il est important que tous les commandements que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous rendre malheureux. Si Dieu nous demande d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles, ce n'est pas pour nous embêter. C'est pour notre bonheur. On pourrait prendre tous les commandements. Donner aux autres. Pour être enrichi. L'Éternel prend plaisir à notre bonheur. Quand vous parlez aux autres, demandez-leur si leur Dieu prend plaisir à leur bonheur. Si vous avez des enfants, vous savez que vous prenez plaisir à leur bonheur. Je pourrais être jaloux de ce que Sébastien va avoir la chance de pêcher en Alaska. Mais je suis pas jaloux, je suis heureux pour lui, parce qu'il va pouvoir avoir cette joie. L'Éternel prend plaisir à notre bonheur. Verset 11, « En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel ?» nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer ?» nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous la mettions en pratique. Cette parole, au contraire, est toute près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. » Là aussi, c'est un passage très important. C'est un passage qui va à l'encontre d'idées communes. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il faut des rituels compliqués, des rituels ésotériques. Pour pouvoir rencontrer Dieu. Il faut entrer dans une transe mystique. faux. Le commandement, il n'y a pas besoin de monter au ciel. Il dit au verset 13, il n'est pas de l'autre côté de la mer. Fini d'y répondre, c'est qu'il faut aller au bout du monde. Un bon endroit, c'est le Népal ou le Tibet. Si vous allez dans une lamasserie, un monastère bouddhiste, ou encore mieux si vous faites un pèlerinage à la Mecque, vous allez pouvoir rencontrer Dieu. La parole de Dieu nous dit, c'est faux. La parole, elle n'est pas au-dessus de nos forces. Cette parole, au contraire, verset 14, elle est près de moi. Elle est dans ma bouche, elle est dans mon cœur afin que je la mette en pratique. Tout le monde sait reconnaître une erreur. Pas toutes les erreurs que nous commettons, mais lorsqu'une personne dit « je sais ce que je dois faire, je sais que j'aurais pas dû faire ça ». J'aurais dû retourner ce sac au commissariat de police. J'aurais pas dû garder les 5000 francs qui étaient dedans. Lorsqu'on dit cela, on reconnaît que la parole, elle est dans ma bouche, elle est dans mon cœur. Jacques dit, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Bien souvent, nous savons ce que nous devons faire, mais nous ne le faisons pas. Et c'est ça le péché. J'aime bien répéter que le meilleur commentaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Ça a été dit bien des fois avant moi. Je l'ai entendu et je l'ai vérifié. Tournons-nous dans Romains 10. On va voir que Paul commente ce passage. Paul nous aide aussi à faire le passage du peuple d'Israël à l'Église concernant ces vérités. Et ces vérités s'appliquent aussi à l'Église, à nous, les chrétiens. Paul parlait d'Israël, justement. Et il disait, verset 1 du chapitre 10, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Le zèle tout seul ne suffit pas. Il y a beaucoup de personnes très zélées dans des fausses religions, dans les sectes. Les témoins de Jéhovah se dépensent beaucoup pour faire du porte-à-porte. Les Mormons envoient leurs enfants servir 2 ans en mission. De la même façon, Paul disait qu'à son époque, les Juifs avaient beaucoup de zèle pour Dieu. Mais c'était sans connaissance. À l'aéroport de New York, on a vu un Juif très zélé. Il est habillé de noir avec le chapeau et les nattes. Et Et il faisait sa prière devant, c'était pas le mur des lamentations, c'était un mur de l'aéroport. Il était là, il priait avec beaucoup de zèle. Ma question, est-ce que c'était avec connaissance, avec l'intimité de Dieu? Paul continue en disant, verset 3 du chapitre 2, Romains 10, « En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. En effet, Moïse écrit à propos de la justice qui vient de la loi, « L'homme qui la mettra en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Et même, je considère, ou qui descendra dans la Bible, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Et là, Paul ajoute, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Verset 12, « Il n'y a pas de différence en effet entre le Juif et le Grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Verset 13 de Romains 10. Paul oppose la justice qui vient de la loi. Et la justice qui vient de la foi. La justice, c'est le fait d'être déclaré juste par Dieu. Et si on essaye d'être déclaré Dieu en obéissant à la loi, on ne peut pas y arriver. C'est l'enseignement de l'Ancien Testament. C'est la conclusion du Nouveau Testament. Paul nous dit qu'en fait, les 10 commandements ne sont pas donnés pour que nous puissions les remplir et arriver à Dieu par notre propre mérite. Les 10 commandements sont donnés pour que nous arrivions au bout de nous-mêmes. Pour nous montrer que nous n'y arrivons pas tout seuls. Par contre, il y a la justice qui vient de la foi en Christ, que Christ, lui, a vécu parfaitement. Et que, en ouvrant mon cœur, en mettant ma foi en lui, à ce moment-là, je suis au bénéfice de sa position de juste devant Dieu. Philippiens 3, 8 et 9, Paul insiste encore. Il dit « Même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être, verset 9, trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi. » C'est-à-dire que je pourrais dire j'obéis parfaitement aux 10 commandements et à toute la loi et donc je suis juste par mes propres mérites. Mais il veut être trouvé, il continue, avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice qui provient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Et donc, Paul fait cette distinction, la justice qui vient de la loi. Si Moïse ne dit pas que nous sommes sauvés si nous obéissons à la loi, il dit que nous serons bénis. Une fois que nous sommes sauvés par la foi, nous sommes bénis par l'obéissance aux commandements. Parce que le commandement de Dieu est parfait. Il donne la vie, nous dit le psalmiste. Et donc, encore une fois, il n'est pas question de dire que le salut, c'est une chose compliquée. Il n'est pas besoin de descendre dans l'abîme. Dans l'abîme. Une perte. Ce serait faire remonter Christ dans les d'entre les morts. Il n'est pas question, par exemple, d'aller rechercher tous les problèmes de son passé sur une couche de psychanalyste. En essayant d'exorciser toutes ces choses du passé. Une cure d'âme peut aider une personne en difficulté. Mais il est bon de ne pas s'apesantir sur le passé. Les gens qui commencent ces traitements chez les psychanalystes ne s'entendent jamais dire un jour, bon ça y est, maintenant c'est fini, vous êtes guéri. Mais en Christ, nous sommes une nouvelle création. La parole, que dit-elle? Elle dit, la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons, nous dit Paul. Et donc, par rapport à Moïse, Paul ajoute que c'est, il faut confesser de notre bouche le Seigneur Jésus. Il dit que, en croyant du cœur, on parvient à la justice, ça c'est le verset 10 de Romains 10. En confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Confus, honteux, on peut avoir honte du péché dans lequel on vit. On peut avoir honte de s'être trompé toute une vie. Toute notre vie, nous pouvons monter les échelons d'une échelle du succès. Et pour s'apercevoir quand on arrive en haut qu'on avait appuyé l'échelle contre le mauvais mur. Quelque part, il y a une grande honte, une grande déception dans notre cœur quand on s'en aperçoit. Pour avoir poursuivi des choses vaines, des idoles. Je crois que c'est une raison pour laquelle il est plus difficile à une personne plus âgée de se convertir à Christ. Il faut beaucoup d'humilité pour à 60 ans dire « Oui, en fait, toute ma vie je me suis trompé. » Encore plus à 80. Dieu peut faire des miracles à n'importe quel âge. Les statistiques disent que 80% des gens viennent à Christ avant l'âge de 20 ans. Parce qu'il n'y a pas cette habitude de vivre une vie en dehors de Christ. Versets 12 et 13 de Romains 10 nous aident à faire le saut. Il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En grec, quiconque, ça veut dire quiconque. Greek. Everyone. Ça veut dire n'importe qui, autrement dit. Il n'y a pas de parti pris pour Dieu. Il a choisi le peuple d'Israël. Encore une fois, il devait choisir un peuple pour s'incarner. Quelque part, c'est un honneur pour le peuple hébreu. Mais au lieu d'en faire un objet de responsabilité, ils en ont fait un objet d'orgueil national. Mais là, Paul nous dit, il n'y a pas de différence qu'on soit de cette race que Dieu avait choisie pour venir s'incarner ou qu'on ne le soit pas. Le Seigneur est le même pour tous. Dieu veut sauver tous les hommes. Les athées, les catholiques, les bouddhistes, les musulmans, même les témoins de Jéhovah, même les mormons. Le verset le plus connu de la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Et quiconque invoque Dieu, il est dit encore une fois dans Romains 10, 12, il est riche, le même Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et bien sûr, Dieu est riche de façon absolue. La Bible nous dit qu'il possède le bétail sur 1000 collines. Il n'a pas besoin d'être reconnu comme riche pour être riche. Il est intrinsèquement riche. Mais il est riche surtout pour ceux qui l'invoquent. Pourquoi ? Parce que ceux qui ne l'invoquent pas, ceux qui ne font pas appel à lui, ne peuvent pas en faire l'expérience personnelle. Pour eux, s'il était intrinsèquement pauvre, ça ne ferait aucune différence. Si vous voulez un exemple plus terre à terre, on peut parler de la CAF. Caisse d'allocation familiale. Voilà. Les caisses d'allocation familiale sont riches pour ceux qui font appel à elles. Parce que l'argent arrive. Il ne serait pas illégal de refuser de se faire connaître par la CAF, de renoncer aux prestations, aide au logement, indemnité pour chaque enfant. C'est pas illégal, mais c'est pas bien malin. Si vous ne faites pas connaître de leur service, vous ne recevrez rien. Et dans votre expérience, si les caisses de la CAF étaient vides, s'ils étaient en banqueroute, ça ne ferait aucune différence. Mais encore une fois, pour tous ceux qui invoquent Dieu, nous pouvons voir qu'il est riche. Jacques disait, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et ce salut, donc, il est valable, il est offert à tous. Revenons à Deutéronome 30:15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le choix nous appartient. Verset 16, je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses prescriptions, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux, à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. C'est le grand choix qui était offert à Israël, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. C'est le grand choix qui nous est offert. Choisis la vie, c'était le nom qu'on avait donné à la campagne évangélistique de Louis Palau en 1999. Et ce choix, il est toujours valable. Aussi valable ce matin qu'au temps de Moïse. Et on se demande comment certains peuvent préférer choisir la mort plutôt que la vie. Mais pourtant, certains le font. Croire, ce n'est pas une affaire de connaissance, c'est une affaire de choix. Je peux décider de croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et qu'en ça, il est différent de tous les autres religieux, les autres leaders religieux comme Confucius, Bouddha ou Mohamed. Je peux décider de croire qu'en acceptant son sacrifice pour moi, je suis sauvé pour l'éternité. Ou alors je peux décider de choisir qu'il n'est pas ressuscité. Que les apôtres ont fait boire les gardes romains, leur ont offert du bon vin d'Israël. Qu'ils ont caché le cadavre de Christ. Ils sont réunis en secret pour jurer de raconter tous la même histoire. Et que même si on les mettait à mort, ils continueraient à dire à s'en tenir à leur histoire. Et ça, c'est pas facile à croire, cette dernière option. On sait, même Satan savait que peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. L'instinct de conservation est très fort chez l'homme. Et donc, on sait que sous la menace de mort, les apôtres auraient dit « Ah non, c'était une blague, on avait monté une petite histoire ». Et pourtant, à part l'apôtre Jean, qui est mort de vieillesse, tous les autres ont eu des morts violentes. Et ne refuser de croire, c'est refuser aussi de croire les témoignages qui sont rapportés dans la Bible et en dehors de la Bible. Ça revient aussi à rejeter tout notre système judiciaire. Qui est basé sur le témoignage. Qu'est-ce qu'on fait dans une cour de justice ? On écoute les témoins. Pour ou contre l'accusé. Croire, c'est une affaire de choix. Moïse ici parle de s'attacher à Dieu. Obéir à sa voix et s'attacher à lui. Quelque part, c'est l'idée d'être comme un frère siamois de Christ. De savoir que là où je vais, je l'emmène. Peut-être que si c'était le cas, j'éviterais certains endroits. Et au contraire, c'est moi qui dois le suivre là où il m'emmène. Dieu est notre vie. Paul le répétait dans Philippiens 1:21, pour moi Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Est-ce que Christ est votre vie? Ou est-ce que Christ c'est le dimanche matin? Peut-être une ou deux fois dans la semaine quand je prends le temps de lire la Bible? Est-ce que c'est un confort supplémentaire? Ou est-ce que Dieu, est-ce que Christ est ma vie? Le choix, c'est le grand choix que Dieu nous donne. Dieu n'est pas difficile à connaître. Il n'est pas difficile d'avoir une intimité avec Dieu. Il faut le vouloir. Dieu ne force jamais notre choix. En quelque sorte, on pourrait dire qu'il est un gentleman. Il frappe à la porte de notre cœur. Il aurait la puissance de la défoncer et de nous attraper. Mais il nous laisse toujours notre liberté de choix. Pour que notre décision soit une décision qui vienne du cœur. Dieu ne veut pas votre argent, il ne veut pas votre temps, il veut notre cœur. Amen. Des fois les gens disent oui, mais tout est accompli à l'avance puisque Dieu sait à l'avance. Non, il est important de comprendre que parce qu'il sait toutes choses, il est en dehors du temps, donc il connaît le choix que nous faisons. Encore une fois, la liberté de choix est la nôtre, le choix nous appartient. Est-ce que vous croyez que vous pouvez facilement connaître Dieu? Est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir cette intimité avec lui? C'est ce que Moïse veut nous faire comprendre dans ce dernier sermon. Encore une fois, c'est Dieu qui est à la source de tout ça. C'est Dieu qui circoncit nos cœurs. C'est lui qui frappe à la porte. Mais c'est à nous de répondre. Prions. Seigneur, merci de la liberté que tu nous donnes. Tu veux que nous t'aimions, Seigneur. Seigneur, nous réalisons que si tu le voulais, tu pourrais forcer les choses. Merci Seigneur de susciter dans nos cœurs cet amour pour toi. Aide-nous Seigneur à répondre, à réaliser que dans nos cœurs, dans notre bouche, tu as mis déjà ta parole. Que Christ est mort pour nos péchés et que si nous avons cette foi en lui, alors la justice qui vient de la foi est la nôtre. Seigneur, aide-nous à nous reposer dans le fait qu'il est facile de te connaître et de te suivre. L'ennemi voudrait nous faire croire le contraire. Ceux qui peut-être n'ont jamais encore mis leur confiance en Christ, vous pouvez prier cette prière avec moi. Répétez en silence dans votre cœur. Seigneur, je te demande pardon pour t'avoir ignoré, t'avoir rejeté. Je réalise et j'admets que je suis une personne qui marche loin de toi, que je cherche mon intérêt avant toi, Seigneur. Que je suis donc un pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je crois que Christ est mort pour moi, que par le sang qu'il a versé, mes péchés sont pardonnés. Et que par la foi, sa perfection devant toi peut être la mienne. Avec ton aide, je veux marcher à ta suite, Seigneur. Je veux m'attacher à toi. Être tout proche de toi. Si, pendant que nous continuons dans une attitude de prière, s'il y en a qui ont fait cette prière, j'en demanderai de lever la main. C'est la prière de la foi qui vous sauve. Encore une fois, ne pas croire, c'est une affaire de décision, c'est pas une affaire de connaissance. Et pour ceux qui ont déjà reçu le Seigneur, sachez qu'il est là, près de vous. Même dans les épreuves, même dans les temps où il nous paraît loin de lui.